Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver dans cette émission Art Bâton Rompu que nous développons tous les mois. Dans cette émission, je reçois aujourd'hui un de mes amis car en tant que commissaire-priseur, eh bien, nous travaillons avec des experts et c'est une grande famille. Et dans cette famille, j'ai un très bon ami qui s'appelle Pierre-Axel Louot, qui est un expert en objets militaires, armes et décorations. Donc j'invite cet ami aujourd'hui parce que nous avons quelques décennies dans cette passion qu'est l'objet d'art. Et donc je lui ai demandé de se présenter. Bonjour Axel, dis-moi, qu'est-ce qui t'a fait venir dans ce beau métier ?
Eh bien ça a commencé par, comme tout le monde, collectionneur. Et au bout d'un moment, on se dit pourquoi pas se lancer et travailler dans ce milieu de l'art. Voilà, c'est venu comme ça. J'ai quitté l'administration.
Est-ce que tu étais dans quelle administration ?
J'étais professeur d'éducation physique. Donc ça n'a rien à voir avec le reste. Et j'ai quitté pour justement un petit peu la... Voilà, j'avais envie de faire autre chose.
Enfin, manier les armes, il faut que ce soit un peu physique aussi. Donc, oui, tu as commencé par le physique, puis après, par le tir.
Non, mais ça me plaisait. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas. Voilà, ce qui a fait que j'ai continué.
Et donc, tu as commencé dans quelle spécialité au départ ?
Ah bah, au début, comme je n'avais pas beaucoup de sous.
Bien sûr. Hein,
parce qu'il y a quand même toujours un côté pécuniaire important. Donc j'ai commencé avec des baïonnettes, avec des choses de peu de valeur, et au fur et à mesure, bah, on commence à faire sa plotte, comme on dit gentiment. Et puis tout doucement, on s'installe avec une petite boutique, après une plus grande boutique. Enfin, c'est toujours pareil, c'est du travail, et il faut continuer tous les jours.
Et donc c'est... des expertises au-delà des collections que tu as commencé à amasser jeune.
Voilà. Mais après, disons que l'expertise vient après. Il y a ce côté un petit peu mercantile, hein, avec d'autres collectionneurs, et tout en étant marchand. Et ensuite, avec le temps, les gens vous cooptent, car vous êtes un petit peu connu pour vos connaissances et votre savoir. On commence à vous demander les expertises. Là, on passe à un autre stade.
C'est ça. Donc, aujourd'hui, une longue carrière, bien évidemment.
Oui, trop longue.
Trop longue parce que ben, les années se suivent et ne se ressemblent pas. Mais toujours avec la même passion, je dirais. Donc l'arme en tant que telle, qui est effectivement, on a dans un petit entretien que nous avions avant, elle est malheureusement de la vie de tous les jours.
Les hommes se sont battus depuis les cavernes avec des massues et puis des silex, jusqu'à maintenant avec des missiles. Hein, et l'homme a toujours été avec des armes. Voilà, c'est ça et la chasse, ce sont les deux choses principales de l'homme.
Alors la chasse, c'était pour survivre, bien évidemment.
Mais qui dit chasse dit arme, d'une façon ou d'une autre.
Donc, on peut distinguer d'abord les objets préhistoriques,
oui.
Et puis après les armes blanches, puis les armes à feu.
Bah, y a eu surtout l'âge du bronze, qui a permis de faire des armes plus solides qu'autrement. Après, il y a eu l'âge du fer. Et on a commencé à façonner les armes d'une façon de plus en plus bien, quoi. Voilà.
Sophistiquée, on va dire. Rudimentaire au départ.
Voilà.
Et puis après, avec le rôle de la science, bien sûr.
Et avec le talent de certains, déjà à l'époque, qui savaient déjà ciseler et qui savaient graver, que ne savaient pas faire les autres.
Oui. Donc. Alors ça, on peut parler peut-être du premier stade, c'est l'arme blanche.
Voilà, c'est l'arme blanche, voilà, tout à fait. Oui. Hein. Et c'était surtout un symbole qu'on retrouve de puissance. Voilà, l'épée était une arme, ou le poignard était une arme indispensable, et ça créait le pouvoir en même temps.
On peut, à ce propos, aller voir des armes extraordinaires, d'abord, bien sûr, au musée de l'armée.
Ah oui, il y a beaucoup de choses à faire, oui.
Aux Invalides, et puis je suis passé juste avant de partir en vacances au musée des Couens, où là aussi il y a des objets remarquables.
Voilà. Alors c'est des fois un petit peu plus austère, parce que ce sont des matériaux qui sont un peu ternes, hein, mais il y a toute une symbolique, et qu'à l'époque tout était rustique, hein, donc on retrouve dans les armes la rusticité des objets d'art. Voilà. Et après ça devient plus joli.
Alors ça devient plus joli, mais au départ l'arme blanche c'est un double tranchant si je puis dire.
Oui,
alors, c'est on peut expliquer.
Se défendre. se défendre, les gens étaient armés, hein, même jusqu'au XVIIIe siècle, puisque pour rentrer à Versailles, il fallait louer une épée, ce qu'on n'avait pas. Oui. À l'entrée, il y avait des loueurs d'épées.
C'est ça. Alors voilà, c'est bien ce que j'insiste là-dessus, ça s'appelle... Bon, c'était effectivement des... Il y a l'épée d'honneur qu'on voit au 19e, mais avant tout, ce sont des armes de défense,
voilà.
Et bien sûr des armes d'attaque. Alors voilà.
Il y a aussi une arme de parade, des armes de parade.
Des armes de parade.
Voilà, sur tous les tableaux, quand vous voyez des empereurs ou des rois, ils sont tous avec une épée ou un sabre représentés, ils n'ont jamais les mains nues.
Exactement. Voilà. Donc là aussi, je dirais, la périphérie du métier, c'est aussi ce qui est l'environnement en ce qui concerne tous ces apports, au point de vue même céramique, tableau, bien sûr, peinture, sculpture.
Voilà,
bien
on
sûr.
Retrouve une grande iconographie qui nous aide aussi, parce que ça a été fait à l'époque avec justement le modèle d'origine, donc ça nous permet de dater certaines choses. Et puis on a la photo, si vous voulez, de l'époque, le tableau à l'époque, c'est extraordinaire. Hein, donc on arrive avec ça à pouvoir retrouver certaines choses dans les musées et à donner une appartenance grâce au tableau.
On peut donc dater.
Voilà, dater et donner l'appartenance.
On a des croquis très anciens sur les armes.
Pas beaucoup, pas tant que ça. Je pense que ceux qui sont exploitables, disons, sont 17e, 16e, 17e, pas beaucoup plus avant. Je pense pas.
L'arme, puisque c'était une émission dite à bâton rompu, je parle avec donc Axel Louot, de l'arme en tant que telle. C'est international, l'arme.
Tout à fait. Tous les pays du monde, avec des variantes selon, le goût des gens. Et puis, bien souvent, des apports religieux qui ont fait que certaines armes ont cette forme-là et pas une autre. Il y a des choses qui sont rituelles, hein, et qui se transmettent encore maintenant. Il y a des armes qui existent depuis le Xe siècle qui n'ont pas changé. À part un petit peu la qualité, certaines armes orientales qui n'ont pas changé depuis le 11e, 12e siècle. À part la qualité des objets avec des matériaux modernes. Mais sinon, l'arme est toujours la même.
L'arme est toujours la même. C'est donc, ça peut être de l'acier, ça peut être de la fonte, ça peut être...
Voilà, en général, l'acier est quand même la chose principale, parce que ça, l'acier a l'intérêt, c'est qu'on peut le rendre tranchant, et c'est quand même très solide. Voilà. Voilà. Mais le bronze, ça se fait quasiment plus depuis des siècles. C'est fini, parce que c'est cassant, déjà.
Le bronze, bien sûr, est cassant.
Voilà.
Donc ça, on s'en sert pour, effectivement, des sculptures...
Ou certains éléments des armes. On peut faire, par exemple, les manches en bronze, mais les lames sont en général en acier ou en métaux ferreux, en tout cas.
Oui. L'entretien de ces pièces ?
L'entretien, c'est un entretien... ces armes-là coûtaient cher à faire, donc il y avait quand même toujours quelqu'un qui s'occupait de les polir ou de les nettoyer. Et il faut mieux avoir une arme bien entretenue si on veut s'en servir, parce que la rouille, ça arrange pas les choses.
Bien sûr. Et surtout qu'on en faisait des grandes quantités.
Oui, il y a eu des ateliers et des régions de France où on était très spécialisés, tout ça, parce qu'il y avait, les éléments locaux qui permettaient de le faire, une rivière pour faire la forge, hein, et des forêts aussi pour le bois. Donc, toute la région de l'Alsace, par exemple, il y avait énormément d'usines et de fabricants d'armes, parce qu'il y avait tous les éléments qui permettaient de les faire.
Et ça depuis...
Depuis le 16e.
Ouais.
Voilà.
Donc
et
là...
jusqu'au début du siècle, hein, voilà.
Oui, bien sûr, il faut un minimum de bois...
Pour une usine pour faire les armes, il faut du bois pour chauffer, pour la forge, il faut de l'eau pour... tremper les armes et rafraîchir tout ça. Donc il faut être bien placé. Voilà.
Et puis il faut effectivement traiter l'arme sur effectivement une forge. Hein,
oui.
C'est évident.
Tout à fait. Donc tout ça est bien ciblé, ce qui fait qu'on peut fixer un petit peu en France certaines régions comme étant spécialistes dans les armes. Voilà.
Alors on a donc l'Alsace, et puis qu'est-ce qu'on a d'autre
c'est principalement l'Alsace.
Principalement l'Alsace.
Ouais.
Voilà. En France.
Oui, en France, là, je parle. Et les Allemands sont pareils, c'est toujours à côté du, de grands fleuves, ou comme le Rhin, ou des choses comme ça. Ils travaillaient avec, avec l'eau et les forêts à côté, toujours.
Donc, toutes ces armes, elles sont répertoriées, pour beaucoup, bien sûr. Au musée de l'armée, on a quand même une série assez extraordinaire.
Oui, voilà, on a la chance de, d'avoir un grand,
grand
grande,
musée.
Grande collection. Alors, il y a deux types d'armes. Il y a les armes qui sont civiles, bon, qui sont privées, voilà. Et vous avez les armes dites réglementaires, donc qui ont été données aux militaires, avec des modèles bien précis, parce qu'on faisait tout le, pour le monde la même chose, car c'était plus facile de fabriquer, admettons, 1000 sabres comme ça, que d'en faire 10 comme ci, 10 comme ça. Et il y avait surtout un problème de réparation, on faisait d'avance certaines lames, qu'on pouvait rechanger quand elles cassaient, et c'était très très réglementé, voilà. Avec des cotes bien précises.
Des cotes précises. Donc, atelier, je dirais, avec un service après-vente.
Voilà, bah vous avez par exemple la manufacture de Versailles,
ah
qui
bah
est
oui.
à côté de Paris.
Bon, Boutet.
Voilà, voilà, dont Boutet, qui a été le grand maître sous le Premier Empire.
Sous le Premier Empire. Hein.
Mais ils ont commencé, déjà au XVIIIe siècle, à travailler. Et vous avez à l'époque des inspecteurs qui vérifiaient, parce que les armes étaient contrôlées avant de sortir. Hein, on regardait si elles étaient bien montées, s'il n'y avait pas de problème de monture. Et tout ça, c'était très, très contrôlé. Parce que, en plus, militaire, c'était donné à des militaires. Donc, les militaires, si vous donnez un truc qui ne marche pas, il ne va pas être content. Hein. Donc, surtout quand on voit la guerre et puis que son épée casse, ce n'est pas bon. Voilà. Donc, c'était très, très contrôlé.
Donc, là, on parle Versailles. Mais on peut reparler d'époque plus ancienne encore, avec que des armes blanches. Encore une fois,
oui.
La différence entre une arme blanche et une arme à feu.
Bah, disons que l'arme à feu a été inventée beaucoup plus tard que l'arme blanche, parce
voilà.
qu'il a fallu que la poudre arrive. Déjà, donc grâce, on dit que ce sont les Chinois qui l'ont, grâce aux Chinois qui l'ont amené. Donc, à partir du moment où on a eu la poudre, on a commencé à chercher comment faire pour faire des munitions et faire des armes pour pouvoir utiliser la poudre. Alors au début, ça a été avec des mèches, hein, voilà. Et déjà, d'autres pays plus anciens avaient déjà des systèmes à mèches que nous n'avions pas. Donc il y a eu des mousquets, hein, les fameux mousquetaires. Hein, c'était une mèche en amadou qui mettait le feu à la poudre et avec des munitions qui étaient dans un canon. C'était assez sobre. Ensuite, on a inventé des systèmes mécaniques pour les mises à feu. Mais tout ça, ça s'est fait sur pas mal d'années. Hein.
Mmh.
Une évolution s'est faite. Il y avait des inventeurs, il y a des gens qui avaient une bonne idée et puis qui mettaient ça en application. Et après, ça a évolué rapidement. On a commencé à avoir des cartouches faites d'avance. Et après, on est dans la mécanique complète. Au départ, c'était très, très artisanal.
Oui, c'est très artisanal. La cartouche est apparue quand, alors?
Les vraies cartouches... C'est au 19e siècle. Hein.
C'est ça.
Oui. Fin du 18e, début 19e. Voilà.
Alors, on parle des armes, bien évidemment.
On parle des armes militaires. Hein.
Militaires. Voilà. Et puis, il y a les armes de chasse.
Alors, les armes de chasse, les gens faisaient leur munitions eux-mêmes. Hein. On chargeait les fusils principalement avec de la bourre. On avait des moules à balles à l'époque. On faisait la balle à part. On avait de la bourre, on mettait ça dans le canon et on essayait de tirer. Voilà. C'était pas toujours très fiable.
Peut-être un peu aléatoire de temps
voilà.
en temps. Et il y avait des accidents, bien évidemment.
Bien sûr, bien sûr. Enfin, l'homme a toujours été attiré par les armes.
Hein. Ah, on peut faire la description d'une arme blanche. On a lame.
Une arme blanche, vous avez une garde, parce qu'il faut la tenir. Donc il faut forcément un élément qui soit solide et pratique, avec une protection, si possible, pour la main. Donc ou cruciforme ou enveloppante. Hein, pour se protéger la main, et ensuite vous avez la lame qui peut être droite, qui peut être courbe, qui peut être tranchante d'un côté, tranchante des deux côtés, pointue, pas pointue, il y a toutes les possibilités. Hein, voilà. Mais la base, c'est quand même la poignée. Voilà.
La poignée, le
voilà.
bouclillon.
Voilà. Pour surtout que la main soit protégée. Parce que votre adversaire en face, il ne va pas vous louper sans ça. Hein. Voilà.
Alors, il y a les armes, et puis il y a les protections.
Voilà.
pour non seulement de l'arme, mais également du tireur.
Alors, vous avez les... Je pense qu'au au début, il y a eu, les cuirasses, les morceaux de cuirasse, qui étaient certainement du cuir hein, à la base. Et ensuite, on a commencé à les forger avec du métal plus ou moins épais. Après, on a mis ce qu'on appelle les défenses de tête, c'est-à-dire les casques.
Les morions.
Voilà, morions et divers, pour se protéger la tête, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup de corps à corps. Hein, les batailles ne se faisaient pas à distance. Les gens étaient face à face et ils se tapaient dessus gentiment, mais très près. Donc,
enfin,
il fallait se protéger.
On va dire gentiment, voilà. Oui. Gentiment.
Voilà. Et donc, on a inventé tout ça. Après, on a fait des protections pour les bras, aussi, avec des gantelets aussi qui étaient en fer articulé pour se protéger, toujours pareil, des mains. Donc, et après, les jambes. Et après, il y a eu les armures complètes, hein, qui étaient ou pour des fantassins ou pour des cavaliers. Voilà. C'était pas la même chose.
Et alors, pour les cavaliers, c'était aussi des armes très très lourdes.
Alors le problème, c'est qu'on les montait, sur le cheval.
Le cheval.
Et en général, c'était des gros chevaux. Hein, c'était pas des anglo-arabes tout fins et
des,
tout. C'était des gros chevaux.
Ouais.
Parce qu'il y avait un poids quand même déjà conséquent. Hein, les selles étaient aussi très épaisses. Et on les montait des fois avec des palans. On les mettait, une fois qu'ils étaient à cheval, ils étaient un petit peu coincés. Et le problème, c'est que dès qu'on faisait descendre le cavalier, qu'il était par terre, on l'avait à sa merci parce qu'il ne pouvait pas se bouger comme un autre. Il était coincé avec ses armes. Il ne pouvait pas remonter. Et il était surtout, ça pesait très lourd, donc il ne pouvait pas se mouvoir comme il voulait. Alors par contre, il y avait des fantassins qui étaient aussi armés avec des cuirasses. Il y avait les deux.
Avec
et qui n'avaient pas la même autorité.
Voilà. Et les poids étaient différents.
Pour les fantassins, c'est plus léger. Voilà. Mais bon, il y a un côté choc, si vous voulez. Il y avait déjà les tournois, à l'époque, il ne faut pas l'oublier. Donc, on faisait des cuirasses très épaisses pour les coups de lance, pour éviter les coups de lance. Il y avait aussi une escrime qui était très, très...
On peut parler des parallèles, effectivement. Oui. Donc, on peut parler des tournois, effectivement.
Voilà. Et les tournois, c'était très, très prestigieux. De gagner, il y avait des tournois réguliers entre la cour et d'autres pays. Des fois, il y avait même des grands problèmes politiques qui se sont réglés grâce aux tournois. Voilà, parce qu'il y avait l'honneur à l'époque, il y avait des tas de choses qui n'étaient pas du tout comparables à ce qu'on a maintenant.
Une diplomatie tout à fait choquante.
Voilà, et il fallait être brave. Il y avait une question d'honneur et de bravoure. Voilà.
Donc ça, c'est les tournois. Et puis, on parle de l'escrime. Alors ça, c'est arrivé un peu plus
tard. Alors l'escrime, il y a eu des... Voilà, l'escrime, il y a des écoles différentes au point de vue escrime. L'escrime espagnole est différente de l'escrime française. De toute façon, c'est malheureusement toujours pour en arriver au même jeu, c'est-à-dire de tuer l'adversaire. Mais il y a des façons de se battre qui sont un petit peu différentes selon certains pays. Mais enfin, on retrouve à partir du 17e un peu la même chose. Hein, tout le monde y avait une épée et puis un poignard. Il y avait deux armes en fait pour se battre. Et on retrouve la même chose, que ce soit en Espagne ou en France ou même en Allemagne, on retrouve la même chose.
Donc on a l'épée dont on vient de parler.
Voilà.
Et maintenant on peut parler.
La dague.
La dague.
Voilà, qui était ce qu'on appelle la main gauche. C'est-à-dire que la main droite, il y avait l'épée et la main gauche, il y avait la dague. Donc on en profitait quand on était presque au corps à corps. Si on pouvait mettre un petit coup de dague. Au passage à son adversaire, c'est pour ça qu'on l'avait de l'autre côté de la main.
Elle aurait été effectivement à main gauche.
Voilà, ce qu'on appelle main gauche, voilà.
Et donc, ça pouvait, oui, on se servait des
voilà,
deux.
Voilà, des deux. Voilà.
À la fois.
Parce que les épées avaient des lames très longues.
Voilà.
Hein, voilà. Et quand on arrivait à s'approcher de l'adversaire, quand on réussissait à lui mettre un petit coup de dague, c'était pas mal, voilà.
Oui, parce que l'arme blanche, il fallait quand même la diriger.
Voilà.
Et c'était pas évident. Ça, sur la cuirasse, ça devait effectivement
ça
glisser.
Ça pouvait riper, mais riper. Pas... voilà. Donc, mais l'adversaire avait la même chose que vous. Hein.
Bien évidemment.
Voilà, donc c'était vraiment des batailles. Voilà, et avec le talent qu'il fallait. Ils ont passé Cyrano de Bergerac cette semaine d'ailleurs, là, qui était une merveille de Rapneau.
Oui, j'ai vu ça.
Ça a été un plaisir. Mais c'était une très belle escrime parce qu'il y avait tout un côté. C'était dur. Je pense qu'il y avait un travail énorme à faire. Voilà, un entraînement perpétuel à faire. Et il y en a qui étaient plus doués d'autres, bien sûr.
Pour ça, On parle donc de l'arme blanche. On parle donc dans cette arme blanche des poignards et des dagues. Alors, comment sont-elles constituées? Parce qu'on a beaucoup de pièces aujourd'hui qui sont restées soit dans les familles, soit dans des états, et en bel état. On a une décoration à partir du 17e, 16e, 17e.
Oh oui, c'est bon, même un petit peu avant, ça commence un peu avant. Mais vraiment 16e, on va dire 16e. Voilà. Parce que c'est... Il y a eu quand même un petit peu ce côté, un petit peu de se montrer, hein, avec des habits chatoyants. Il y avait les tissus, les broderies. Bon, quand on voit les tableaux de cette époque-là, on se rend compte. Alors, certains pays sont plus que d'autres. Hein. Bon, les Italiens, par exemple, c'est toujours très, très... voilà, c'est ce côté un petit peu fastueux. Et en France, on n'était pas non plus en retard. Hein.
Les Allemands même, non plus.
Voilà, non. Mais un peu plus austère chez les Allemands. Un peu plus austère. Hein. Mais en France, on l'avait quand même... Bon, quand on voit l'époque de François Ier avec les... Hein, il y avait quand même des habits merveilleux avec des belles armes et tout ça. La Renaissance, c'était extraordinaire. Que ce soit en Italie ou en France, ça a été extraordinaire. Et en plus, il y a eu, je pense, des apports avec les voyages des grands navigateurs qui ont ramené des brocarts ou des velours ou des tas de choses de l'étranger qui ont fait que ça a encore amélioré les tenues de tous ces gens-là. Et c'était très important de paraître... Voilà, avec des très beaux habits. Voilà.
C'est le cas de le dire, des armes diplomatiques.
Voilà. Hein? Armés, mais en même temps beaux. Voilà.
Bien sûr. Ah ben oui, le prestige était quelque chose d'essentiel.
Il y avait tout qui allait avec, les plumets, les gens avaient des plumes, on se mettait en valeur, voilà. Il y avait un côté un petit peu festif, en même temps.
Le côté festif, d'accord, mais le côté armes... armure, c'était essentiel, bien évidemment.
Ça peut être très sobre, parce que l'armure de fantassin, c'est sobre. Hein. Mais quand on atteint certains personnages un peu importants, hein, et qui avaient de l'argent, parce que ça coûtait très cher, ils faisaient faire des armures sur mesure, déjà, pour commencer, et puis qui étaient ciselées, qui étaient repoussées, qui étaient dorées, qui étaient selon ses moyens. Mais ça coûtait beaucoup d'argent.
Ça coûtait de l'argent, et donc on a tout un ensemble de corps de métier pour fabriquer une arme. On va dire une arme.
Oui, bien sûr, il y avait des forgerons.
D'abord, hein, d'abord le forgeron.
Le forgeron, hein. Et ensuite, vous avez le ciseleur, hein, qui était tout pris au burin pour faire toutes les gravures. Et puis vous avez aussi des gens pour façonner. En dehors de ça, il y avait des artistes. Hein, les Italiens, par exemple, avaient deux, trois comme des grenilles. On fait des choses absolument extraordinaires. Mais en France, on l'était bien. On était quand même aussi très bon.
Ah, des grenilles très, très bon. Pourquoi des grenilles?
Parce qu'il a fait des choses complètement folles, quoi. Des casques absolument incroyables.
Avec un damasquinage
oui,
dessus.
Oui, et puis les formes étaient... et tout. Non, c'était très beau.
Et des casques pouvaient être effectivement avec des nuances, c'est-à-dire soit dorés, soit argentés,
plaqués. Il y en a qui ont été bleuis.
Bleuis, voilà.
On savait déjà travailler un petit peu avec certains produits chimiques, donc on arrivait à faire des bleuis, ça existait.
Qu'on a vu souvent sur Napoléon III.
Voilà, après, mais ça c'était... Voilà. Bon, c'est à base de cyanure. Hein, donc,
attention.
Les pauvres gens qui faisaient ça, à 30 ans, ils étaient morts. Hein.
Oui,
on ne s'occupait pas de...
Entre ça et le mercure.
Voilà, on ne s'occupait pas du tout de leur santé, c'était pas très grave. Voilà. Mais ça conserve en même temps, parce que ça a un côté un petit peu de protection. Hein. Mais là-bas, c'est quand même la dorure. Ou l'argenture.
La dorure, l'argenture.
Voilà. Mais il faut se dire que c'est très difficile, parce que sur de l'acier, pour faire de la dorure, c'est très compliqué. Il faut déjà mettre du laiton, et ensuite faire la dorure dessus, parce que sinon, ça ne prend pas. Donc, il y a toute une technique
J'avais parlé
de
technique.
Bain.
Oui, la technique est essentielle.
Donc, ces gens-là étaient, avec des moyens de l'époque. Hein, c'était des bains d'acide. Des choses comme ça, bon, je vous dis, il mourait très très jeune, hein. À 30 ans, le type, il était déjà...
Oui.
Hein, il y avait les poumons qui étaient pleins de trous.
La retraite n'était pas là.
Non, c'était pas grave. Ça ne comptait pas, voilà.
Donc, arme à feu.
Alors là, l'arme à feu a pris... l'arme blanche est restée jusqu'à la fin, hein, au Premier Empire. Il y avait évidemment les fantassins, hein, qui se savaient des armes à feu, des fusils, et des pistolets, mais l'arme blanche est restée jusqu'à la fin, même jusqu'au milieu du 19e, une arme très efficace et très employée. Nous avons au Premier Empire là, encore les charges, hein, les fameuses charges du Premier Empire de cavalerie, c'était fait avec des sabres, hein. Donc ce n'était pas les armes à feu. Ils avaient des armes aussi à feu, mais ils avaient d'abord du sabre. Donc ça a servi très tard. Et puis il y a un côté prestige.
Très bien. Eh bien à propos de charges, on peut peut-être parler aussi des marches.
Oui.
Alors, puisqu'on va...
Ah ben, la musique militaire a toujours été...
On peut peut-être en parler un petit peu, la musique militaire.
Oui.
Parce qu'on va passer un morceau de musique important qui est de cette marche militaire de Marengo. Et donc, on va pouvoir parler des marches, effectivement, la musique militaire qui précédait les combats.
Ou qui était avec, oui, qui était... voilà.
Ouais.
Bah, c'est-à-dire que les régiments avaient tous une clique ou une musique, hein, que ce soit les fantassins ou les cavaliers, ils avaient tous une musique qui était en général en tête de défilé. Hein, et pendant les combats, ils ne s'en servaient pas beaucoup, il y avait les trompettes qui servaient à donner les ordres. Hein, selon la sonorité de la trompette, ça voulait dire on va à droite, on va à gauche. Et il y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas le téléphone portable.
Non, ça,
donc c'était
ouais,
la trompette ou le clairon pour l'infanterie. Voilà. Mais les musiques militaires ont toujours été très importantes et très entraînantes.
Très entraînantes.
Pour marcher 30 km par jour, si vous avez de la musique, ça aide, on va dire.
Oui. On va justement écouter ce premier morceau de musique. J'espère que cette émission vous intéresse. Moi, j'ai en face de moi donc Pierre-Axel Louault, qui est expert en objets militaires, armes et décorations. Et nous sommes en train de parler de cette belle, je dirais, spécialité. Et nous allons donc mettre là, grâce à Benoît, je remercie, la marche de la garde consulaire à Marengo. Eh bien, nous sommes dans le rythme à Radio Courtoisie, Olivier Doutrebande, patron d'émission. Et nous sommes aujourd'hui avec notre ami Pierre-Axel Louault, expert en objets militaires, armes et décorations. Vous venez donc d'entendre la marche de la garde consulaire à Marengo et vous aviez le rythme. Alors,
eh bien, cette musique que tout le monde connaît ou a déjà entendue, est toujours d'actualité, car à chaque fois que le chef de l'État passe les troupes en revue, par exemple le 11 novembre ou des choses comme ça, la garde républicaine le joue et se fait présenter les armes avec cette musique-là. Vous remarquerez, à chaque fois, c'est la même. Voilà. Donc c'est une très jolie marche, qui est très entraînante, voilà. Mais toujours jouée par la garde républicaine.
depuis 1800, puisque bah oui, elle date, pas, elle date de changé, cette époque-là.
Voilà.
Nous allons parler maintenant de l'évolution de l'arme à feu à partir du 17e.
Oui, voilà. Oui, fin du 16e, on va dire.
Fin 16e.
Voilà. Bah, comme je l'expliquais tout à l'heure, bon, avec l'arrivée de la poudre, on a commencé à chercher à faire des armes et à faire des projectiles avec la poudre pour pouvoir envoyer ces projectiles. Donc on a commencé avec des armes à mèche, comme j'expliquais tout à l'heure. Ensuite, on a trouvé des systèmes avec des silex, hein, qui, avec le frottement du silex et les étincelles, mettaient le feu à la poudre.
Ça, c'est donc ce ça, que l'on
ça
voit.
Ça a été les arquebuses.
Voilà, hein, c'est les arquebuses.
Les arquebuses. Donc les mousquetaires avaient des mousquets au départ à mèche, et ensuite ils ont eu des armes, des arquebuses. Voilà. Donc ça a duré un certain temps, jusque ça s'est porté. Les chasseurs ont eu ça même encore au XVIIIe siècle. Il y avait encore des chasseurs qui tiraient avec des arquebuses à rouet.
Les arquebuses à rouet. Ouais. Alors antérieurement, on avait peut-être les archers.
Les archers, bon. Mais les archers, ça s'est arrêté très tôt, parce que c'était plus du tout à la mode.
Alors, c'était plus à la mode, et puis c'est resté quand même pour la chasse.
Voilà, il y avait encore quelques gens qui allaient à la chasse avec des arcs, mais très peu.
Très peu.
En fait, là bon, il y a eu, les javelots et tout ça, c'était fini. Bon, c'était plus d'actualité. Hein. Donc, après l'arquebuse à rouet, on a trouvé le système à silex, qui est une simplification, en fait, du rouet, hein. Donc, le silex a duré jusqu'en, on va dire, jusqu'aux années 1820-1830.
Oui, j'allais dire la Restauration. Hein,
voilà. Hein. Et là, on a inventé ce qu'on appelait le système à percussion, qui est un système avec une amorce, ce qui permettait de faire des cartouches entières qu'on mettait dans le canon, et on n'avait plus besoin de manipuler de la poudre pour la mise à feu. C'était une petite amorce. Hein, et
un genre d'étoupe.
Voilà, qui était frappé par le chien, donc, et qui mettait le feu à la poudre. Donc ça s'est bien évolué. Et ensuite, on a eu beaucoup d'inventeurs qui ont commencé à évoluer avec. Les poudres ont évolué aussi, hein, parce que les poudres du Premier Empire, ça faisait beaucoup de fumée. Voilà. Et ça n'avait pas une force très, très, très solide, on peut dire. Donc après, on a commencé à évoluer dans la chimie. Donc à faire des poudres plus efficaces. Donc des inventeurs ont trouvé des systèmes de mise à feu différentes, plus ou moins bonnes, mais le 19e siècle, on est débordé par le nombre d'inventions qu'il y a eu. Et on a commencé après à faire les systèmes à percussion centrale, c'est-à-dire qu'on faisait une cartouche qu'on mettait dans le canon et qui était mise à feu par un pointeau, donc le chien, qui était une pointe en fait, et qui donnait le feu à la cartouche. Ça évitait beaucoup de manipulations. Et ça permettait d'avoir des cartouches d'avance. Voilà. Et donc jusqu'à maintenant, on n'a rien inventé depuis. On est toujours à
la
percussion centrale.
Non.
On est toujours à la percussion centrale. On n'a rien inventé de mieux.
Voilà. La composition de la poudre, c'est quoi alors?
Oh, ben c'est. Ça, je ne suis pas du tout chimiste, mais je sais qu'il y a du salpêtre.
Oui.
Hein? Et puis je ne sais plus quoi.
Ça permet une mise à feu rapide.
Voilà, bah c'est
explosive.
Voilà, malheureusement. Donc les armes, vous avez différentes catégories à l'heure actuelle. Hein. Vous avez des armes de chasse, bon, qui sont répertoriées et soumises à certaines conditions de détention. Donc ce qui est normal, parce qu'il faut un permis de chasse. Donc si vous voulez acheter une arme de chasse, vous pouvez être détenteur d'un permis de chasse ou d'une licence de tir. Hein, et vous avez un numéro, chaque arme est numérotée, et vous devez la déclarer. Hein, vous avez un genre de carnet,
un répertoire
qui est pour toute la France. Donc votre arme doit être répertoriée avec le numéro qui correspond. Si vous avez un contrôle d'un garde champêtre ou quoi, vous devez être dans les règles. Ensuite, vous avez les armes de collection, qui elles sont libres. Hein. Vous avez là, vous n'allez pas sortir dans la rue avec un fusil comme ça en braillant, vous risquez peut-être d'avoir quelques ennuis avec la police.
Maréchaussée.
Mais sinon, vous avez le droit de détenir ces armes-là et de les collectionner. Hein. Et vous avez, en dernier lieu, vous avez les armes de catégorie B, qui sont les armes qui sont avec une autorisation. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. C'est les armes avec une détention d'armes. Donc là, il faut être tireur. Ça met beaucoup de temps pour les avoir, parce qu'ils sont très très difficiles. Les revolvers, vous voyez, comme 357 Magnum où certaines armes sont très très limitées au point de vue autorisation. Voilà.
C'est normal.
C'est normal. On ne peut pas laisser les gens avoir n'importe quoi.
Quoique aux États-Unis.
Ouais, mais ça, c'est les États-Unis. Ce n'est pas tous les États d'ailleurs. Hein.
Pas tous les États.
Non. Certains États sont libres, d'autres ce n'est pas libre. Hein. Mais le permis de chasse, c'est déjà une chose.
Permis de chasser.
Oui, qui n'est pas évidente à avoir parce que. Vous avez un parcours de chasse à faire.
Je l'ai passé, moi voilà. aussi. Tu l'as passé, toi aussi ?
Non. Il y a 25 ans ou 30 ans, c'était plus facile.
Oui.
Maintenant, mais c'est normal. Donc, une arme, c'est quand même une chose dangereuse. On a bien un permis de conduire, c'est normal d'avoir...
Une voiture, la même chose.
De l'avoir aussi un permis de chasser. Hein. Et en plus, ça donne des bonnes idées aux gens, quand même, de discipline. Très important. Voilà.
Il faut être très méthodique.
Voilà. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et puis le reste, les choses militaires sont toujours d'actualité, malheureusement. Hein, les guerres, il y en a toujours. Hein, et là, on en est maintenant avec les drones, avec des choses qui sont complètement... On passe dans un autre monde, va-t-on dire. Hein. Mais la guerre traditionnelle va peut-être durer encore un petit peu, mais pas si longtemps que ça, je pense.
Le canon ?
Le canon, on reste... Le canon, c'est un petit peu une arme de large quelque part, parce que
vous tirez dans le tas.
On tire dans le tas, puis on tire de loin. Donc on voit pas qui vous tire dessus.
Et voilà. ça date de quand, les canons ?
Les canons, ça a commencé au 15-16e, le chinois aussi, je pense. On a dû ramener ça de là-bas. Hein. Ils étaient très en avance. Hein. Mais ça a fait des dégâts énormes. Hein. Mais c'est une arme qui est un petit peu, malheureusement, qui pour moi est un petit peu lâche. Parce que vous êtes loin, vous tirez sur les gens, on ne sait pas qui vous tire dessus, alors que quand même, quand on vous tire avec un fusil, vous réussissez à peu près à savoir où c'est. Hein ?
Oui.
Il n'y a pas de contact, quoi, voilà, c'est ça.
Le canon était plus une arme, je dirais, de défense sur l'architecture ou pour l'architecture.
Ça permettait de casser les murs.
Voilà.
Ça, hein, et puis
d'envahir.
Et puis de vous aviez une charge de fantassins. Bon, vous tapez dans le canon dedans, ça fait du dégât quand même. Hein. C'était une arme terrible. Et dans la marine, les bateaux, pareil. Hein. Ça vous démolissait un bateau.
C'est surtout au 17e qu'on s'est servi du canon.
Oui, au 18e aussi. Hein, sous l'Empire, il y a eu beaucoup de... Il y avait beaucoup d'artillerie. Hein. Des deux côtés d'ailleurs. Hein. Voilà. Ça restait une arme importante. Voilà. Tout ça pour tuer, toujours.
Alors, on peut parler de... On parle donc de ces armes. Est-ce qu'on peut... On viendra peut-être dessus, mais est-ce qu'on peut parler maintenant des décorations ?
Alors, les ordres de chevalerie. Alors, ce qu'on appelle très pompeusement les ordres de chevalerie. Ça a commencé un petit peu avec les ordres religieux, hein, à la base... Ça a été Saint-Michel, des décorations comme ça, parce que c'était eux qui... la religion avait tous les pouvoirs à l'époque, que ce soit en France ou ailleurs. Donc ils portaient tous, on les voit sur les tableaux très anciens, avec des colliers en or ou machin, et des ordres, si vous voulez, qui étaient donnés à très peu de gens. Et ensuite, ça ne s'est pas démocratisé, mais disons qu'on a commencé à multiplier chaque pays, à inventer des ordres, hein, pour honorer tel ou tel saint, hein. Principalement c'est toujours des saints, hein. Et ça s'est vraiment développé à partir, disons, du 18e, voilà. Et au 19e, là, ça a été la floraison, tous les pays du monde s'y sont mis, voilà. Donc c'est très collectionné, parce que c'est beau, ce sont des objets d'art, c'est en général en matière précieuse, souvent en or, ou en vermeil avec des émaux, donc c'est vraiment de très beaux objets. Et il y a une clientèle pour ça qui est internationale. Hein. Que ce soit, on parle des petites choses à 50 euros et puis des choses jusqu'à 50 000 euros. Hein, parce que c'est très très beau. Voilà. Et il y en a qui sont très rares. Parce que je donnais à très peu d'exemplaires.
Il y a la rareté, il y a le côté historique.
Oui.
D'où ça vient, la provenance est importante.
C'est-à-dire que vous avez, plus vous êtes haut en grade, plus vous avez des décorations. Hein. Donc un général de division ou un général d'armée a ce qu'on appelle un placard de décoration.
Que l'on voit d'ailleurs.
On voit régulièrement. À l'heure actuelle, comme il n'y a pas eu de guerre avec d'autres pays, ils ont moins de décorations, mais il y a encore 30 ou 40 ans, il y, il y avait encore des placards où il avait facilement 20 ou 30 décorations sur la poitrine.
On les voit sur les généraux.
Voilà. Voilà, maintenant, bon, principalement, c'est Légion d'honneur et l'Ordre du Mérite. Hein. Puis il y a un petit peu de campagne, mais il n'y a plus grand-chose. Hein, voilà. Mais ça a été quand même, pendant très très longtemps, l'apanage des grades. Hein, plus on est en grade, plus c'est chargé, disons, on va dire.
Alors, par exemple, pour ne pas parler des premiers ordres, on parle des ordres religieux, puis après la Toison d'or, l'Ordre du Saint-Esprit...
Voilà, tout ça. Alors, la Toison d'or, c'est très ancien, voilà. Mais par contre, en France, ça ne se porte plus depuis longtemps, alors qu'elle est encore portée en Espagne et en Autriche. Voilà, c'est très très bizarre. Hein. Par contre, le Saint-Esprit, ça a été créé en France, hein, puisque j'ai eu l'honneur et la chance d'en vendre plusieurs, hein, des grands colliers.
Oui.
C'était des très très belles décorations. Hein. Bon, les dernières ont été données par Charles X, hein, le lendemain de son couronnement. Voilà. Et après, c'était supprimé, donc on n'en avait pas vu. Et il y a surtout la Légion d'honneur qui est la création de l'empereur.
Tout à fait.
Hein, en 1802, bon, ça a été parce que c'était à la fois civil et militaire à l'époque. C'était pas que militaire. C'était pour récompenser les Français qui faisaient des choses. Voilà. Mais ça reste la première décoration qui est toujours en tête sur un plastron de décoration. C'est toujours la Légion d'honneur qui est en tête. Voilà.
Alors la Légion d'honneur, c'est un ordre donc. Enfin,
oui.
Et vous avez un musée que c'est l'hôtel de Salm, qui est sur la Seine à côté à côté de la gare d'Orsay, l'ancienne gare d'Orsay, qui est à côté du musée d'Orsay. Superbe musée. Je vous engage à y aller parce que c'est très bien documenté.
Et les collections merveilleuses.
Des collections exceptionnelles. Et ça se visite très régulièrement. La Légion d'honneur, elle a plusieurs étapes.
Oui, il y a plusieurs grades surtout.
Il y a plusieurs grades, voilà.
Bon, on commence par la chevalier qui est la basique, officier, commandeur, donc qui se porte autour du cou. Ensuite, vous avez le grand officier qui est une plaque. Et ensuite, vous avez la grande croix avec une écharpe, une décoration au bout et une plaque. Voilà, il y a quand même des grades importants.
Et aujourd'hui, le chancelier, justement, porte ces décorations-là parce que ce sont des officiers.
Voilà. Bah, le chancelier est forcément grand croix.
Hein. Grand croix, tout à fait.
Donc,
et c'est automatiquement un militaire.
Le président de la République est aussi grand croix. Oui. C'est lui, en fait, le grand maître, c'est le président de la République.
Bien sûr. Voilà. Mais le chancelier, il est automatiquement militaire.
Ah oui, obligé.
Obligé. Mais puisque c'est au départ, tu disais que c'était un ordre civil, mais militaire aussi.
Voilà. Non, il est obligatoirement militaire. Voilà. Et il reste 3, 4 ans, 5 ans, on va grand maximum.
Oui, c'est vrai. Hein.
Parce que, bon, en général, ils ne sont pas jeunes. Hein. Ce sont des généraux qui sont en fin de carrière. Donc, c'est très honorifique. Et c'est... Il y a eu Georges Lain qui s'occupait de Notre-Dame. Hein, qui a été
le général Pugat, un grand officier militaire.
Donc c'est très honorifique, mais enfin bon, c'est très bien. Et le grand collier, bon, le dernier qui l'a mis, je crois que c'est Pompidou, parce que c'était décerné justement par le grand maître. C'est un collier qui en or et en machin avec tous les magnifiques. Mais monsieur maître Macron n'a pas.
Maître Macron, le président.
Voilà,
Macron.
Le président Macron n'a pas mis le collier. Sarkozy, je crois, non plus. Hein, je crois que le dernier, c'était Pompidou. Et Hollande, non plus.
Peut-être Chirac, non?
Non. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr.
Enfin, toujours est-il que c'est...
De Gaulle, oui.
Ah, bah, évidemment.
Ah, bon, oui, il était en photo, voilà.
Bien sûr. Ouais. Donc, la Légion d'honneur. Donc, les matières pour la Légion d'honneur, c'est or, argent...
Voilà.
Et essentiellement avec des émaux.
À la base, on commence avec de l'argent pour la chevalier. Et dès que c'est de l'officier, c'est de l'or, hein, ou du vermeil. Voilà. Mais on a le mérite national, qui est devenu une décoration importante, qui a été créée pour remplacer toutes les autres qu'il y avait avant. Parce qu'avant, vous aviez le mérite maritime, le mérite ceci, des tas de décorations, il y avait au moins une 20 ou 30 décorations différentes. Et là, on a tout résumé en créant le mérite, en 58, hein, c'est De Gaulle qui l'a créé. Mérite national. Donc ça résume tous les autres trucs. que chaque administration avait sa décoration à l'époque. Que ce soit la justice...
L'agriculture.
Voilà, tout le monde. Ça existe toujours.
L'agriculture existe toujours.
Ça existe toujours. Le célèbre poireau, le mérite agricole, ça n'a pas été, ça n'a pas été changé. Et c'est très difficile à avoir. Ce n'est pas tout le monde qui l'a. Mais avant, il y avait énormément de décorations. Donc on l'a tout réuni sur un... Et vous êtes maintenant, après les premiers ministres, au bout de 6 mois de fonction, ils sont grand croix.
Ah oui.
Voilà, c'est pour ça qu'ils portent tous.
Ah bien sûr, voilà. À la boutonnière.
À la boutonnière, voilà. C'est comme ça.
Alors la boutonnière, elle a effectivement la petite décoration rouge voilà. Sur un petit canapé.
Sur un canapé, alors le quand c'est blanc, c'est commandeur. Quand c'est grand officier, c'est moitié-moitié, c'est doré-argenté. Et grand officier, c'est doré en dessous. Macron, par exemple, c'est doré. Vous verrez la petite rosette rouge, mais le fond est doré. Ça, c'est grand croix. Voilà. Et ça se porte, hein, ce qui est normal.
Oui, bien sûr.
Ah oui. Et Hollande porte toujours, alors qu'il n'est plus président de la République, il est à vie.
Hein. Bien sûr.
Voilà.
Quand on ne retire pas.
Non, oui, ça c'est encore autre chose.
Hein. Donc, on parle décoration. On va revenir sur les armes du Premier Empire, car c'est quand même la période
ça a été
la plus exceptionnelle.
Il y a eu surtout des artisans extraordinaires à l'époque. Hein, donc il y avait la manufacture de Versailles dont...
On parlait tout à l'heure.
Où Nicolas Boutet était le patron à l'époque. Il y avait quand même des grands comme Lepage, Birmet, il y avait des très très grands arquebusiers qui travaillaient d'une façon extraordinaire. Bon, c'était une question d'argent comme d'habitude. Hein, vous avez Biennet aussi, quand même, qui a fait beaucoup de choses, enfin, pas d'armes, mais il a fait tout ce qui
était... Un grand orfèvre, avant tout
un grand orfèvre, voilà. Toutes les boîtes, si vous voulez, c'est lui qui les faisait, pour présenter
les armes.
Les armes, et tout ça, c'est lui qui les faisait aussi. Ça a été extraordinaire, on a eu quand même les plus bons artisans. Et ensuite, on a l'époque de Charles X,
ah oui.
Qui est merveilleuse aussi. Ça a duré une dizaine d'années, mais ça a été tout ce qui est bronze, par exemple. Je crois que c'est les plus beaux bronzes du 19e siècle, c'est sous Charles X.
Ouais.
Hein, avec la ciselure et la dorure, et les matières comme la porcelaine, comme tout ça, ça a été une époque extraordinaire.
Tout à fait.
Et en armes, on a eu quelques belles choses aussi. Mais il n'y a pas eu de guerre sous Charles X. Il y a eu juste une vague campagne en Algérie, mais ça n'a pas été important. Donc il n'y a pas eu de... Par contre, après, sous Napoléon III, on a un retour aussi au prestige. C'est-à-dire que le neveu a voulu recréer une garde impériale, ce qu'il a fait. Hein, puis on s'est quand même un petit peu battu. On a eu la guerre du Mexique, on a eu la guerre d'Italie, une campagne d'Italie avec les Anglais et tout ça. Donc on a créé, il y a eu quand même pas mal d'armes de fait, hein, avec des inventions intéressantes. Voilà. Ce que je disais tout à l'heure, il y a eu des gens quand même qui ont inventé des choses importantes au point de vue système pour simplifier les choses. Parce que bon, l'homme de base, le militaire de base, il n'est pas forcément très malin. Hein, et si on veut qu'il soit efficace, il faut lui simplifier la vie.
Donc il faut des armes simples, pas de complications.
Voilà. Il faut inventer des choses.
Ce qui est logique, c'est comme dans n'importe quel métier.
Ce qui est logique. Hein. Mais sous Napoléon III, on a eu de très belles armes de fait aussi. Mais moins qu'au Premier Empire.
Alors, on parlait des épées d'honneur tout à l'heure. Moi, je vois surtout, en passant en vente publique, des épées d'honneur souvent 19e.
Oui, beaucoup. Hein? Beaucoup. Beaucoup. Mais surtout les sabres d'honneur. C'est quand même le Premier Empire, le sabre d'honneur. Hein? Il y a eu un tout petit peu de fête sous la Restauration, mais la grande base, ça a été remplacé par la Légion d'honneur, d'ailleurs. Parce que ça coûtait très cher à l'État, parce qu'il y avait des parties en argent. Donc l'argent, à l'époque, valait très cher. Donc un beau matin, l'empereur a dit, bon, ça suffit. Il a créé donc la Légion d'honneur. Et au lieu de donner un sabre d'honneur, il donnait la Légion d'honneur. Ça coûtait nettement moins cher. Voilà. Donc à partir de 1805-6, il n'y a quasiment plus d'armes d'honneur. C'est fini. Mais avant, oui. Il y avait des sabres, des fusils. Des mousquetons, tout a été fait. La grenade, des grenades d'honneur, des haches d'honneur, il y avait, voilà.
À propos de sabre, le sabre est également une arme très ancienne. Surtout, peut-être, le sabre dans les pays d'Orient.
Bah, c'est très important, le sabre reste, voilà, pour les Orientaux, très important, puisqu'ils portent encore le poignard, tout le Moyen-Orient, où on voit bien sur les films et tout ça. Ils ont toujours la djembia qui est passée devant, là, sur la djellaba, et ça se porte encore, c'est encore rituel. Voilà, nous on n'a plus tout ça.
Hein. Non.
Mais le sabre, dit cimeter, parce que c'était courbe, voilà, est une arme qui est très respectueuse. Et sur les drapeaux de certains de ces pays, on a toujours le sabre qui est représenté. Parce que ça reste très important.
Oui.
Ce sont des guerriers, hein, ce sont des tribus, hein, à la base. Hein. Même maintenant, avec les milliards de dollars, il reste des tribus. Et ils gardent les principes. Mais les autres pays, l'Amérique du Sud, il n'y a rien de particulier. Hein, parce que d'abord, l'Amérique du Sud a été, disons, conquis par les Espagnols.
Essentiellement. Hein.
Donc, on ne sait pas si ce qu'avaient les Incas ou ces gens-là. On n'a rien trouvé de particulier. Donc, il y a tout un hémisphère où il ne s'est rien passé, en fait. Ou si ça s'est passé, on ne sait pas. Les États-Unis, ça a été pareil que des apports d'Europe.
D'Europe, oui, au 18e.
Les États-Unis ont été créés, bon, grâce à l'Europe. Hein. Donc, ils ont fait plein d'inventions. Hein, c'est énorme. Voilà. Et vous avez des continents où l'Afrique, bon, vous avez des armes quand même africaines, de jet, tout ça, qui sont toujours un petit peu dans le même genre. Il n'y a pas eu une évolution énorme. Hein, ça n'a pas été. Hein.
C'est vrai.
Voilà. C'est resté très rituel. D'abord parce que les matériaux ne sont pas là. Les forges ne sont pas...
La fabrication ne peut pas se faire, parce qu'il n'y a pas, effectivement...
Il n'y a pas ce qu'il faut.
Ce qu'il faut.
Hein, voilà. Et puis, l'arc et les flèches, comme on parlait tout à l'heure, c'est resté beaucoup plus longtemps que chez nous. Parce que ça ne coûte pas cher. Et puis, on peut trouver les matériaux.
Les pays de l'Est ?
Pays de l'Est, principalement la Russie... Bon, y a des armes qui sont beaucoup de tendance orientale, parce que les Cosaques, bon, sont des musulmans la plupart, hein, donc ils avaient des armes qui étaient un peu musulmanes, avec des formes un peu particulières. Donc ils se sont basés sur ces armes-là pour faire les armes russes, hein, qui sont typiques, qui sont par rapport à les nôtres, c'est différent. Les sabres ne sont pas de la même façon. Par contre, les armes à feu... C'est à peu près la même chose. Et puis après, ça a été uniformisé. Hein.
C'est uniformisé par les prises de guerre, pour savoir comment ça s'était passé.
Oui,
il y avait des transferts d'ouvriers. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le tsar, même Nicolas II avait commandé pas mal d'armes à l'étranger avant la guerre de 14, parce qu'ils n'avaient pas d'usine pour les faire.
Hein, Tola n'était pas une usine.
Si tu l'as, mais tu l'as, c'est du jet pour du haut de gamme. Hein. Après, ils se sont mis un petit peu à faire du gros industriel, hein, mais ils n'avaient pas la capacité de fournir. L'armée russe était
énorme.
Des millions d'hommes, donc. Voilà, donc il faut fournir. Donc ils ont fait des commandes à l'étranger, en Belgique principalement, parce que c'était très très bon, toute la région de Liège. Tout ça parce que toujours pareil, les forêts, le fleuve en bas pour les forges et les fabriques. Toujours pareil.
La Belgique.
Oui, la Belgique. Bah, Liège, encore à l'heure actuelle, vous avez encore de très très bons faiseurs en armes de chasse modernes. Que ce soit des crossiers, des gens qui font les crosses et les bois, il y a encore des gens qui travaillent très très bien. Ils ont une réputation extraordinaire.
Armes de chasse.
Oui, principalement.
Alors, l'arme de chasse, elle apparaît quand?
Ben, l'arme de chasse, ça a dû commencer avec des armes à mèche.
Oui.
Et puis, au fur et à mesure, ça s'est... Bon.
Mais bon, la chasse, bien sûr, sous Louis XIV, sous Louis XV, évidemment.
Ça a été sûrement un coup, et après, on s'est rendu compte que deux coups, c'était mieux. Donc, on a commencé à faire des canons...
Parallèles.
Voilà, hein, juxtaposés.
Oui.
Voilà, ça donnait une deuxième chance. Comme ça, si on loupait la première, on pouvait avoir le deuxième. Voilà. Donc, mais je pense que c'est, on va dire que c'est 17e, quoi.
17e.
Ouais. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup d'arquebuses à Rouen.
Voilà.
Énormément. Et jusqu'en Suisse et l'Allemagne du Sud, ils étaient encore avec de l'arquebuse à Rouen au 18e. Hein. Parce que ça marchait bien. Ils avaient l'habitude.
Oui, il fallait effectivement que les militaires ou autres officiers sachent s'en servir.
Oui, mais bon, c'était les bonnes familles qui avaient ça. C'était pas le paysan du coin, il n'avait pas le droit déjà. Il n'avait pas le droit de chasser.
Bien sûr,
il n'y avait que la noblesse qui avait le droit de chasser.
La noblesse qui, effectivement, avait la charge.
Donc, c'était des gens qui étaient déjà un peu éduqués, qui avaient fait toujours un petit peu d'armée, plus ou moins. Donc, il y avait quand même une technique qui valait pour la chasse, qui marchait pour la chasse.
Et ça s'est perfectionné, surtout au 19e siècle.
Oui, parce qu'il y a eu ces inventions de poudre, plus légères, et mieux faites, disons. Et puis on a commencé surtout les systèmes de chargement des armes, qui ont beaucoup évolué. Avant, il fallait faire les cartouches à part et tout là, alors que là, la cartouche était d'un seul bloc, et on pouvait la mettre directement dans le canon.
Et ça date de quand, là, la cartouche?
Ça a commencé vers 1840, oui. Mais ça a mis du temps à être performant pour tout le monde. Hein, parce qu'il faut liquider les stocks. Bon. Et l'armée, par exemple, ils avaient du stock, ils n'allaient pas refaire des trucs modernes, alors qu'il restait peut-être 10 ou 15 000 ou 20 000. Fusils comme ça, il fallait les liquider. Hein. Donc ça a pris des fois un petit peu de temps. Voilà. Mais ça, c'est bien, au 19e, il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué. Voilà.
Et les armureries, à part quand on commence avec Boutet, entre autres, à Versailles ou
En province, il y avait d'excellents armuriers à l'époque, mais qui ont disparu au fur et à mesure. Il n'y a quasiment plus d'armuriers en France.
Aujourd'hui?
À Paris, je ne sais pas, il va rester deux armuriers. L'armurerie de la Bourse, qui est à côté de l'hôtel Drouot.
Et puis il y a Levallois-Perret.
Levallois, voilà. Et puis une autre, je ne sais plus où, mais il n'y a plus rien. Alors qu'avant, il y en avait une dizaine. Ouais. Et en province, c'est pareil, ça se fait rare aussi. Parce que maintenant, c'est plus rentable. Il y a moins de chasseurs qu'il y a eu.
Oui, parce que là, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. En fait, des armes se passent de père en fils.
Oui.
Et on n'achète plus d'armes, ou très peu.
Oui, oui. Il y a eu moins de chasseurs, qu'il y a eu.
Et il y a moins de chasseurs, bien sûr, aujourd'hui, pour différentes raisons d'ailleurs.
Par contre, on ne peut pas acheter des cartouches sur Internet. Ça, c'est compliqué. Non, il y a quand même encore une législation qui est assez
très stricte. Oui.
Voilà. Ouais. Bah oui, parce que sinon, on va. Mais ça, ils disparaissent. Ils vendent de plus des imperméables et des bottes que des fusils de chasse. Hein. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Mais bon, ça intéresse quand même les chasseurs. Il y a quand même toujours des chasseurs. Moi, j'en connais pas mal.
Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme armes aujourd'hui? À la part
ils sont au calibre 12 classique.
Ouais.
Mais par contre, ce qui est très à la mode, ce sont ce qu'on appelle les express, qui sont des armes à balles pour les sangliers, les cerfs ou les chevreuils. C'est beaucoup plus puissant qu'une cartouche à plomb. Hein. Donc ça, ça reste très demandé. Express ou petit calibre. Tout petit calibre.
Express, c'est français?
Oui, on dit express parce que ça va vite.
Bien sûr.
C'est des cartouches. Alors les munitions sont plus faibles au point de vue calibre, mais plus efficaces. Voilà. Et oui, et y a beaucoup, beaucoup maintenant de chasseurs qui veulent du petit calibre. 20, du 22. Bon, il faut être bon tireur. Par contre, oui, parce que plus le canon est petit, moins ça arrose.
Exactement. Voilà.
Donc, mais c'est très à la mode. Par contre. Tout ce qui est moyen, ça vaut plus rien. Alors, plus personne en veut.
On peut parler effectivement de l'évolution du marché.
Voilà. Alors, il y a calibre 12 classique ou calibre 16, c'est pire. Mais le calibre 12 classique moyen, ça vaut plus rien. Les gens veulent plus ça.
Oui, ils prennent des express ou alors ils prennent.
Voilà.
Les gens se sont spécialisés.
C'est un marché compliqué hein, parce que les chasseurs sont des gens. Pas simple.
Très, très exigeant.
Exigeant, il y a toujours.
Parce que l'arme, c'est une chose, mais la capacité de tirer en est une autre. Et il faut que ça aille.
Et le premier conseiller, le deuxième conseiller, qui lui dit oui, mais tu vois, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. C'est très, très compliqué de. Moi, j'en ai vendu quelques-unes aux enchères. Hein, c'est pas facile des fois. Ils sont très 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 euphoriques pendant l'exposition. Et puis le jour de la vente, il n'y a pas de mal levé. Hein. Parce qu'entre-temps, le copain lui a dit que non, mais non, on ne prend pas ça, tu vois. C'est pas si, c'est pas ça.
C'est très intuitif personnel. C'est une arme, c'est très physique. C'est un peu. C'est comme un stylo.
C'est pour ça que je ne comprends pas qu'on puisse acheter une arme sans l'avoir prise en main.
Voilà.
Une arme de chasse, surtout. Hein.
Ouais.
Une arme ancienne, bon, ça n'a rien à voir. Mais déjà, à l'époque où ça commençait avec Internet et tout ça, que les gens ne venaient pas voir les armes, j'ai dit, écoutez, comment vous faites pour acheter un fusil si vous avez déjà la crosse ?
Une paire de chaussures, il faut l'essayer.
Il y a une longueur de crosse qui va
vous
aller.
La longueur de crosse est très importante.
Voilà, bon, c'est à peu près toujours pareil, mais enfin, ça va vous tomber bien.
Il faut pas,
voilà. Donc, j'ai eu du mal à comprendre ça. Et j'aurai toujours du mal.
Bien sûr, oui.
Hein, comme une voiture, si on a envie d'essayer avant de l'acheter. Hein.
Normalement,
ça me paraît normal. Hein. Et puis, sinon, le marché des armes est pas mauvais. Il y a quelques nouveaux collectionneurs dans certains domaines. Bon, le problème, c'est que le très haut de gamme, c'est des gens qui avaient certains moyens. Bon, je parle d'objets à 30 000, 40 000, 50 000 euros. Bon, il y a de moins en moins de gens qui ont les moyens d'acheter ça. Déjà parce qu'ils n'ont pas la culture. Hein. Donc, voilà. Ils ont, à part certains qui ont été bien élevés, si je puis dire, et bien éduqués. Mais donc, il y a moins de clients pour ça. Donc, les prix sont un petit peu...
À la baisse.
Un petit peu à la baisse. Hein. Ça se vend, parce que quand c'est du haut de gamme, ça se vend toujours.
Hein. Alors, quand on parle de haut de gamme, il y a plusieurs choses. Il y a l'objet historique, il y a l'objet technique, l'arme technique, l'arme fastueuse, ce sont des collectionneurs bien distincts.
Voilà, l'arme historique, c'est vraiment le personnage. Voilà, bon, tout ce qui a appartenu à Napoléon, il n'y en a pas beaucoup, mais... Bon, ou des gens importants, ça vaut toujours pas mal d'argent. Hein. Mais par contre, des armes d'honneur, par exemple, sont un petit peu moins demandées qu'elles n'ont été il y a 20 ans.
D'honneur,
les sabres et tout ça. Parce que tous les gens qui achetaient ça, ou sont servis, ou sont morts. T'as pas trop de nouveaux clients. Voilà. Par contre, ce qui vaut bien cher, c'est tout ce qui est historique, vraiment historique. S'il y a une vraie provenance, là c'est bien. Avec des documents, avec...
Il y a du faux qui circule.
Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de bricolage.
Ils
sont anciens, des fois, hein, qui ont été faits. Vous avez dans les sabres, par exemple, au début du siècle, un monsieur qui s'appelait Monsieur Rommel, qui était un gros industriel, qui était riche, et qui a fait faire à l'époque, vers 1890-1900, tous les sabres de la garde impériale, Premier Empire, à 3 exemplaires. Parce qu'il y avait encore des fournisseurs à l'époque qui étaient capables. Parce qu'il avait 3 maisons. Donc il voulait avoir ces trucs-là dans les 3 maisons. Mais c'est très très bien fait. Il y a tellement peu de différence avec un vrai que c'est compliqué.
Ah, non. C'est pas évident. D'où l'expert.
Voilà. Donc, oui, mais c'est, des fois, ça a bien vieilli et c'est pas facile.
Ah oui.
Pas facile. Hein? Donc, mais ça a une valeur quand même. Ça n'a pas la même valeur que l'original, c'est sûr. Mais ça permet à des gens qui n'ont pas trop de moyens d'avoir un truc pas mal quand même. Voilà. Et vous avez les systèmes. Bon. C'est moins demandé qu'à une époque. Avant, il y avait des collectionneurs de revolvers à système qui auraient fait des pieux au mur pour les avoir. Ils sont moins nombreux. Voilà.
On va continuer notre émission.
Oui.
Mais Benoît va passer un petit bobino.
Ah.
Voilà.
Radio Courtoisie. Libre. Sans publicité. Sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine. Des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Chers amis, nous poursuivons donc notre émission. Olivier d'Outrebande, je suis patron d'émission. Pour l'émission d'aujourd'hui, comme tous les mois, cette émission s'appelle Art Bâton Rompu. Et aujourd'hui, j'accueille mon ami expert en objets militaires, armes et décorations. Et nous poursuivons cette émission avec Pierre-Axel Louot, donc. Et nous allons continuer à parler un peu du marché de l'art,
oui.
En ce qui concerne les armes et les décorations.
Oui, bien sûr.
Alors, on parlait d'abord, avant le Bobineau, nous parlions de, justement, les objets historiques qui se vendaient toujours d'une manière importante.
Voilà.
Les objets napoléoniens, beaucoup d'objets napoléoniens.
Surtout, voilà, c'est la grande époque quand même de la France, hein. Ça a été les campagnes napoléoniennes. Bon, malheureusement, ça s'est mal terminé. Mais ça a été quand même très prestigieux. Il y a eu quand même un panache. On était vraiment à l'apogée, je crois, au point de vue de l'art militaire, avec un empereur qui était quand même assez extraordinaire. Et surtout, là, il y a eu des uniformes et des armes magnifiques qui ont été faites à l'époque. On faisait tout pour flatter le soldat. Pour aller se faire tuer, il fallait qu'il soit au moins beau. C'était important, hein. Après, vous avez le Second Empire, qui est une période qui n'est pas mal. Moi, personnellement, j'aime bien. Bon, malheureusement, c'est pareil, on l'a pas fait avec des miracles, puisqu'on s'est fait battre par les Prussiens en 70.
Les 70.
Hein, parce qu'on n'était pas prêts, comme en 40, même chose.
Comme en 40.
Hein, même chose, tout ça, c'est comparable. Bon, alors le problème actuel, c'est que, malheureusement, l'histoire de France n'est plus très à la mode. Donc, elle est enseignée d'une certaine façon à l'école. Pas comme j'aime, disons, on va dire.
On est loin de Jacques Bainville.
On est loin de tout ça. Donc, qui dit mal enseigné, pas de culture.
Pas de culture, bon. Donc pas de passion, et donc pas de collection.
Et moi, j'ai été surpris par des générations entières qui est incapable de vous donner la chronologie des rois de France au XIXe siècle, par exemple, hein, et des gens qui se destinaient à des métiers de l'art. J'ai eu ça avec des stagiaires.
Hein, comme quoi.
Incapable de vous donner la chronologie entre Charles X, Louis XVIII. Bon, Napoléon III, il ne savait pas qui c'était, si c'était le frère ou si c'était le...
Ah oui.
Ah oui, c'était à ce stade-là. Hein. Donc, ces gens-là ne vont jamais collectionner les armes, puisqu'ils ne savent pas déjà de quoi on parle. Hein.
Donc, bien sûr, ça, l'histoire est la base.
Et c'est valable pour les objets d'art. Hein.
La même chose.
La même chose. Hein. Nous, on voit ça tous les jours, surtout les commissaires-priseurs qui sont des généralistes.
Voilà.
Les gens sont... si on ne leur a pas dit ce que c'était, ils sont incapables de dire comme c'est ça. Bon. Donc, il y a ça qui... Par contre, il y a une spéculation un petit peu sur certains objets, parce que... d'abord, les métaux, avec l'or. Hein. Bon, les décorations, par exemple. Les décorations, maintenant, valent plus cher au poids que leur valeur collection.
Ah,
ça
oui.
Fausse tout. Bah, vous voyez, une Légion d'honneur, Troisième République, les dernières, en or, hein, on en est à ces 18 grammes, donc c'est vite fait.
Ah bah oui.
Hein, bon, ça fait un billet de mille, quoi, un truc comme ça.
Hein. Facile.
Alors que, avant que l'or fasse ce qui...
C'est bon d'aujourd'hui.
C'est bon d'aujourd'hui, ça valait 250 euros.
Tout à fait. Maintenant, c'est le poids de l'or.
C'est le poids de l'or. Et tout est comme ça. Donc, vous avez une décoration qui n'intéresse personne, parce qu'elles ne sont pas demandées. Mais par contre, rien qu'au poids,
quand
ça vaut de l'argent.
Quand les marchands ne vont pas détruire ces objets-là.
Ah bah c'est détruit, hein. La plupart sont achetés pour passer à la
fonte.
Hein.
Là, c'est catastrophique.
C'est énorme. Depuis 2-3 ans...
On voit même les ventes de bijoux et d'argenterie, surtout l'argenterie.
Ce qui passe à la fonte, c'est que...
Énorme. Énorme.
Et en décoration, c'est quand même dommage, parce que bon, c'est quand même des objets d'art. Hein.
Très beaux objets.
Ouais. Alors, dans les décorations, il y a différents stades. Parce que des fois, les décorations ont été créées au XVIIIe siècle et se sont terminées en général à la fin du XIXe. Donc, les modèles du départ sont évidemment plus chers que les derniers modèles, c'est normal. D'abord, la fabrication est un peu différente et puis ce n'est pas le même prestige. Hein. Bon, une Légion d'honneur Premier Empire, forcément beaucoup plus chère que celle du Second Empire.
Voilà.
Bah, pourtant, ça se ressemble, hein. C'est à la tête de l'empereur aussi.
Exact.
Mais c'est pas pareil, c'est pas les mêmes choses. Et après, vous avez certains pays, ce qui vaut le plus cher après les Français, c'est les Russes. Décorations russes, impériales, bien sûr, hein, je ne parle pas des soviétiques, qui valent très cher. Voilà.
Hein. Parce qu'il y en a peu ?
Pas peu, parce que ça a été ramené quand il y a eu la Révolution, en 17. Bon, les émigrés russes en ont ramené en France, principalement, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Donc, y en a encore qui traînent, voilà. Moi, j'ai vendu il y a quelques années là, un ordre de Saint-Nicolas Nevski, un grand officier qui avait été offert à à l'époque un amiral français qui était l'attaché militaire. J'avais vendu ça une fortune. Mais bon, parce que c'est recherché par la nomenclature russe. C'est leur histoire. Je pensais qu'avec la Révolution, tout avait été détruit. Eh ben non. Parce que le Saint-Pétersbourg, le musée de l'Ermitage, c'est extraordinaire parce qu'ils ont quand même tout gardé quasiment. C'est fantastique. Voilà. Et il y a encore une demande. Bon, pas trop en ce moment. Ça va quand
bien
même
sûr,
pas très, très bien.
Pourquoi, oui. Hein.
Depuis quelques années, ça s'est un petit peu tassé. Mais c'est pareil, les prix étaient devenus complètement débiles. Comme l'or. Alors,
comme l'or. Okay.
Voilà. Donc ça redevient un petit peu plus raisonnable. Mais ça vaut quand même cher. Donc il y a la France qui vaut et la Russie, les Russes. Voilà. Après, l'Allemagne vaut cher, la décoration allemande valent assez cher. Angleterre aussi. C'est très européen. Hein, voilà.
Oui, j'allais dire. Ouais, y a, oui,
très européen. Le reste du monde, bon, il n'y a pas. L'Amérique du Sud, c'est tout des ordres, bon, un petit peu, disons, de dictateurs, bon, qui n'ont pas d'intérêt. Mmh. Voilà.
Et les collectionneurs, eux, sont surtout européens.
Il y a le monde entier.
Le monde entier.
Ouais, le monde entier. Et ça commence avec la guerre de 39, la croix de guerre de 39. Bon, ça vaut 30 euros, hein, ça vaut pas cher. On peut commencer avec des petits prix. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de modèles. Donc, on peut faire une collection avec des petits moyens. On peut se faire plaisir, disons. Après, on grimpe, bien sûr. Mais on peut se faire plaisir avec pas trop cher.
C'est important pour nos auditeurs. Je rappelle que nous sommes en train de parler aujourd'hui d'objets militaires, d'armes et de décorations avec Pierre-Axel Louault, qui est expert essentiellement à Drouot, mais bien sûr en province, d'ailleurs il peut nous en parler. Et nous parlons donc de cette spécialité passionnante où on a effectivement des collectionneurs qui évoluent. Nous avions des grands collectionneurs, on avait, moi je me souviens avoir connu un grand collectionneur, je ne sais pas s'il le faisait.
Lapeyre,
justement, j'allais parler
voilà, Monsieur Lapeyre.
De Monsieur Lapeyre, que j'ai connu, bien sûr, dans voilà. Son hôtel particulier de rue de Monceau. Voilà. Il collectionnait des armes aussi
un petit
très peu,
mais surtout les,
les médaillons de Napoléon.
Ah, les très beaux objets. Hein.
Très beaux objets, voilà. Les boîtes en or avec l'effigie de Napoléon, tous les objets retraçant cette période.
Il y a encore quelques vrais collectionneurs. Enfin, la plupart, malheureusement, sont plus
disparus, oui, hein, tout à fait.
Enfin, il manque parce que c'était des gens qui étaient quand même des soutiens énormes pour le marché.
Pour le marché, oui.
Hein, donc quand ils étaient là, bon, quand ils voulaient quelque chose...
Ah oui, ça ils pouvaient,
effectivement. Ils ne s'arrêtaient pas.
C'est ce qui s'est dépassé un jour quand monsieur, justement, Lapeyre m'expliquait qu'il était devant monsieur Boussac dans une vente aux enchères et qu'il y avait un tableau qui les intéressait l'un et l'autre. Et de Jean-François de Marne, et M. Boussac s'est retourné, a vu M. Lapeyre qui était à l'époque beaucoup plus jeune que lui, et il a retiré son beau chapeau qu'il avait, il avait un melon sur la tête, en disant « je vous remercie de me laisser la priorité
l'élégance,
sur cette vente ».
L'élégance.
C'était la grande élégance à l'époque. Et effectivement, M. Lapeyre, le souvenir français, c'est pas le souvenir français, pardon, son musée napoléonien est une chose remarquable.
Ah oui, non. Et ils n'ont jamais rien vendu, d'ailleurs. Hein.
Ah ben non.
Dans ce genre de collectionneur, tu as la maison Hermès, Enguerrand Hermès, les armes de chasse, les dagues de chasse et tout. C'est pareil, il a fait une collection extraordinaire.
Chose à les voir aussi. Ouais,
ils sont au bon, Saint-Honoré, là.
Oui, tout, hein, oui, tout
là,
à fait.
Tout là, hein.
Vous rentrez dans cette magnifique boutique de soierie, mais ça n'est pas que de la soierie.
Ouais.
Vous avez des tableaux remarquables, vous avez effectivement...
C'est des gens qui ont fait énormément pour la culture et pour la sauvegarde.
Exactement.
Parce qu'ils ont... Ils ont sauvé beaucoup d'objets.
Ouais.
Hein. Mais à l'heure actuelle, bon, malheureusement, il n'y a pas trop de nouveaux clients. Et il y a des objets qui partent à l'étranger, achetés par des gens qu'on ne connaît pas, puisque maintenant, avec Internet et tout ça, on ne voit plus les acheteurs. Hein. Ce qui est aussi un petit peu frustrant,
oui,
je le trouve.
Tout à fait.
J'en parlais en venant avec Maître d'Outrevent. Je trouve un petit peu frustrant qu'on ne puisse plus toucher un objet avant de l'acheter. Je comprends pas. J'ai du mal à comprendre qu'on mette quand même pas mal d'argent dans l'objet sans l'avoir eu dans les mains, sans l'avoir regardé. Et tout ça seulement sur des photos. J'ai un petit peu du mal à comprendre ça.
C'est tout, ta réflexion est totalement légitime.
Voilà. Mais c'est comme
faut
ça.
Voir un objet. Voilà, c'est ça évolue ou ça révolue. On va peut-être écouter maintenant, avant de terminer cette émission, eh bien, nous allons écouter une marche militaire, celle de Schubert, l'opus 51, avec notre ami Benoît qui nous met en musique. Nous poursuivons notre émission avec mon invité, ici Olivier Doutrebande, patron d'émission, sur l'émission Art Bâton Rompu. Je suis aujourd'hui donc avec Pierre-Axel Louot, qui est expert à la fois à Paris et en province, sur les objets militaires, les armes et les décorations. On était en train de parler du marché de l'art. Il se comporte comment en province aussi?
Ah, la province, vous avez une clientèle présente, et en plus l'intérêt des gens de province, c'est qu'ils ont un peu plus de place que les Parisiens.
Pour les exposer.
Ils ont des maisons, en général, donc ils ont toujours une pièce qui est réservée un petit peu à la collection, ce qui leur permet d'acheter des choses un peu plus importantes au point de vue de taille. Alors que Paris, bon, la plupart des gens sont passés bien souvent de 100 mètres carrés à 50 mètres carrés,
oui.
Donc c'est difficile. Et les patronnes, si je puis dire...
Ah oui, pour la dépoussiérage, c'est voilà. Moins
et
bon.
Et puis la place, elles ne sont pas ravies de voir leur mari. Ramener des trucs le samedi soir. T'as vu ce que j'ai trouvé, ma chérie? Oui, mais on va le mettre où? On n'a pas de place. Voilà. Donc, la province, on a encore la chance d'avoir des gens qui ont un peu plus de place. Et il y a autant d'amateurs en province qu'à Paris. Hein. Voilà.
Ah, il y a autant d'amateurs.
Ouais. Ah oui, bien sûr. C'est pas limité. Hein. Mais Paris, pendant longtemps, on disait qu'il n'y a que là que ça se passait, mais c'est faux. Moi, j'ai vendu des choses très très chères en province. À des gens locaux, d'ailleurs, hein, parce qu'ils sont moins gâtés qu'à Paris. À Paris, à une époque, il y avait 10 ou 15 marchands d'armes de collection, et puis des ventes.
Des ventes, oui.
Voilà.
Ça s'est raréfié, quand même.
Oui, hein. Ça s'est raréfié, parce qu'il y a moins de marchandises aussi.
Hein. Voilà.
Mais la province, il y a... Et puis maintenant, avec Internet, de toute façon...
Ah, c'est ça, Internet est le grand concurrent.
Voilà. Hein. Mais le monde entier est prévenu.
Ah oui,
hein, moi, je vois des fois, j'ai des ordres qui arrivent de tout, là, pas très longtemps. J'ai vendu un truc à un Russe qui m'a fait expédier le truc à Chypre. Bon, enfin bon, c'est
oui,
incroyable.
C'est, quoi. C'est international.
C'est nos limites.
Ouais.
Hein. Vous avez des Lettons, des Lettonies, des gens qu'on ne verra jamais. hein, des Hongrois, des gens... les Russes, ils sont un peu absents parce qu'avec ce qui se passe, ça fait un petit moment qu'ils sont un petit peu blacklistés, on va dire. Il y a eu un peu de problème parce qu'ils avaient tendance un petit peu à acheter et ne pas payer.
Ça, on a aussi ces problèmes-là, oui.
Voilà, il y a eu ça pendant un moment. Et puis, on leur interdit surtout de sortir les devises.
Voilà.
Donc, ils ne peuvent plus acheter comme avant.
Voilà. Un peu comme en matière de porcelaine, les Chinois sont limités aussi dans leurs achats.
Voilà.
Ce qui fait que le marché a un petit peu baissé là-dessus.
Voilà, à cause de ça. Ça, c'est des choses internationales qui sont des problèmes qui malheureusement, rejaillissent
sur le marché de l'art.
Hein, voilà. Mais enfin, bon, pour l'instant, il n'y a pas trop à se plaindre. Moi, je trouve que par rapport dans l'époque à laquelle nous vivons, avec les problèmes qu'il y a, je suis encore étonné qu'il y ait tant de gens qui soient passionnés et qui continuent de collectionner. Donc je pense que c'est du rêve, on vend du rêve.
Mais bien sûr.
Et il faut comprendre ça, comme ça.
Mais le rêve, ça nous fait vivre.
Ça nous fait vivre, et je trouve ça merveilleux d'avoir encore envie de ces choses-là. Parce que la vie actuelle n'est pas faite pour...
Non, c'est vrai.
Voilà, c'est comme ça.
Eh bien, c'est pour ça qu'on a nos belles émissions à Radio Courtoisie, pour faire partager nos passions. Le collectionneur aujourd'hui, en armes, c'est qui? C'est un ancien, il peut y avoir de jeunes collectionneurs?
Les militaires, même qui sont à la retraite, n'ont pas des grosses retraites, donc ils sont
Ah oui, c'est ça. Oui.
Voilà. Ils sont pas, bon, à part...
Amateurs, oui, mais...
À part ceux qui ont un peu de sous de famille, ça c'est autre chose.
Voilà.
Mais le reste, ils ont en général des enfants, ils ont leur vie qui est faite. Bon, il reste pas grand-chose dans le panier, hein. Donc, le reste... Alors, c'est un peu des cadres supérieurs qui ont eu un petit peu, des fois, touchés par la grâce divine. Ils ont eu un film ou un truc qui leur a plu, et ils veulent...
Et ils ont pris les armes.
Ils ont commencé à... acheter ça ou ça, hein, ça peut être très variable. Ça peut être des casques, ça peut être ci, ça peut être des décorations, ça peut être des armes. Ils ont eu un déclic, voilà, soudain. Ou des copains, aussi. Il y a ça qui sont... c'est joli ce que t'as acheté, là. Bah écoute, je vais voir mon
expert.
Voilà, ou va voir, il y a une vente, là, tiens, il y a des trucs qui sont bien.
Voilà.
Hein. Donc, ça, c'est la base. Et il y a surtout des familles où le père collectionnait. Le fils continue de collectionner. Il y a une transmission.
Il n'a pas été dégoûté.
Non, ça existe encore.
Oui.
Quelques-uns. Moi, j'en connais comme ça, j'ai encore 3-4 clients. Hein. Donc, je travaillais déjà avec le père. Le père est mort entre-temps, où il est toujours là. Mais il continue. Voilà. Et il y a des gens qui sortent de nulle part.
Bah, heureusement.
Mais on a de moins en moins de présentiel.
Oui.
Les contacts sont de plus en plus... Même dans les salles des ventes, il y a des tas de gens que je ne connais pas, que je n'ai jamais vus. Pourtant, j'ai un peu de bouteille.
Bien sûr.
Et je connaissais à peu près tout le monde. Maintenant, il y a des gens qui sont là. Je ne sais pas qui c'est. Et qui achètent.
Voilà.
Donc, ils sont collectionneurs. Hein. Mais je ne les connais pas.
Le métier évolue, comme dans toute situation.
Mais là, ça a été relativement vite. Hein.
Oui.
Ça a été tellement vite. Bon, alors, il y a un côté qui est pratique, parce que bon, ils sont contents d'avoir des photos qu'ils n'avaient pas forcément avant, parce qu'on n'avait pas trop le temps de le faire. Mais maintenant, c'est la base.
Voilà.
Il faut faire 15 photos pour un objet à 10 francs. Hein.
Oui, c'est ce qui est assez...
Beaucoup de travail, beaucoup de préparation.
Beaucoup de préparation, même si effectivement, c'est à 10 euros et pas forcément à 10 francs. Tout ça pour dire que effectivement, les gens nous demandent beaucoup de précision, ce qui permet aussi de se dire que les gens s'intéressent.
Oui, par contre, ils ne viennent plus les voir.
Voilà.
Donc, on a remplacé la vision des objets par une foule de choses.
Tout à fait. La photo, effectivement.
La photo, les mesures, les scies, la couleur.
Ouais.
Voilà. Mais c'est beaucoup de travail de préparation. Mais grâce à ça, on vend.
Voilà.
Si vous ne le faites pas, comme les gens ne viennent pas...
Et l'arme de chasse se maintient en vente publique?
Quand c'est bien, oui. Quand le moyen, ça ne vaut pas grand-chose.
Ben, comme dans tout.
Voilà. Hein. C'est même très, très difficile à vendre. Et c'est des gens que tu connais, qui sont à Levallois et qui j'ai donné la plupart des dossiers parce qu'ils sont très sérieux.
Des gens très sérieux.
Voilà. Parce que c'est quand même très technique et je préfère leur laisser le travail. Voilà.
Chacun son métier.
Oui, exactement. Voilà.
Donc, et la décoration, les gens s'intéressent.
Ça va bien. Oui, Il y a jamais de problème. Ça, on vend toujours bien. Il y a une clientèle de base qui est là.
Oui, il y a une constante dans la décoration.
Voilà, qui va. C'est-à-dire que les décorations, le type, il a la chevalier, l'officier. Bon.
Bah oui.
S'il veut la commandeur, il faut qu'il l'achète.
Voilà.
Donc, il y a tout et. Il y a
une gradation. Une gradation.
Bon, après, il y a une question d'argent.
Bien sûr.
Parce que, bon, alors le problème en ce moment, c'est les métaux précieux. Voilà. Ça, le.
Bien sûr.
Avec le prix de l'or, c'est compliqué. Hein. Donc, ça brime un peu certaines choses quand même. Mais ça se vend, hein.
Oui, c'est ça.
Mais il faudrait que ça revienne à des prix...
plus raisonnables.
Oui, je pense que ça serait bien pour tout le monde. Hein?
Très
même,
bien.
Même pour les objets d'art, pareil.
Ah ben, on est d'accord là-dessus. Ouais. Eh bien, nous allons terminer cette émission. J'ai donc invité Pierre-Axel Louau, que je remercie chaleureusement. J'espère que cette
C'était
émission
un plaisir.
Vous a été agréable. N'hésitez pas, si vous avez besoin de renseignements, je transmettrai à Pierre-Axel... Et nous pourrons regarder les choses ensemble. Je vous retrouve dans un mois pour de prochaines aventures. Chers amis, à très bientôt. Merci.
Au revoir.
Venez d'entendre le libre journal des histoires de l'art et du patrimoine dirigé par Olivier Doutreban, Tarbaton Rompu, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 8 septembre 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix fonds de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.